Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin.
Un nouveau point sur l'info avec vous, Agnès Bonfillon, bonjour.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Le sort s'acharne sur le Liban, bilan très lourd après une double explosion à Beyrouth hier.
Au moins 78 morts, 4000 blessés. C'est l'explosion de 2700 tonnes de nitrate d'ammonium qui a provoqué ce drame. Plusieurs quartiers ont été soufflés, les hôpitaux, eux, sont littéralement débordés.
Et on sera en direct de Beyrouth dans un quart d'heure maintenant avec nos invités qui ont vécu ces explosions ressenties dans tout le pays et même au-delà.
Plusieurs pays dont la France s'apprête à envoyer de l'aide sur place, du matériel, mais aussi des sauveteurs et des urgentistes. Nous ferons aussi le point sur le gigantesque incendie près de Marseille. Depuis hier soir, il a ravagé plus de 900 hectares et il n'est toujours pas maîtrisé. Les Parisiens masqués à l'extérieur, dans les 2-3 jours à venir, Anne Hidalgo souhaite que le port du masque soit obligatoire dans les quartiers les plus fréquentés.
RTL Matin.
Au lendemain de la double explosion à Beyrouth, le bilan s'alourdit d'heure en heure.
Au moins 78 morts, près de 4000 blessés. Plusieurs quartiers ont été totalement soufflés, on le disait. L'origine du drame, du nitrate d'ammonium, 2700 tonnes stockées dans le port de la ville. Ce qui a donné lieu en fin d'après-midi à des images apocalyptiques, Valentin Boissé.
De nombreux smartphones sont braqués sur une épaisse fumée noire qui envahit le port. Puis survient une explosion. Un champignon apparaît dans le ciel, la terre tremble jusqu'à Chypre et dans le centre-ville, de nombreuses vitres explosent, des voitures sont projetées. Laurent, étudiant libanais, accourt alors chez ses voisins.
Tout leur appartement, elle a été soufflée. L'appartement d'en dessous, il a aussi été soufflé. Les fenêtres sont complètement pulvérisées. Franchement, s'il y a quelqu'un qui était à côté, je pense qu'il aurait été, on va dire, gravement atteint.
Les hôpitaux sont eux aussi endommagés et en quelques minutes, ils sont submergés de victimes. Lynn habite le quartier chrétien de Beyrouth.
Il y a des personnes que je connais qui ont essayé d'accéder aux hôpitaux de Beyrouth. Il n'y a plus de place, ils sont dans un état grave. Même les hôpitaux de banlieue apparemment sont débordés. Ils ne pourront pas servir tout le monde.
Très vite, la solidarité se met en place. Fadi tente de venir en aide à certains grâce aux réseaux sociaux.
Ils sont en train de proposer des appartements pour les gens qui sont sans abri maintenant. Il y a des gens qui font des dons de sang, d'autres qui utilisent leur voiture comme ambulance pour faire déplacer les blessés.
Mais ce qui prédomine, c'est le choc. Tous avouent ne jamais avoir ressenti une telle explosion, même dans les années les plus noires de l'histoire du Liban.
Valentin Boissé pour RTL, et on l'entendait, hein, les hôpitaux sont débordés. Difficile de faire face à l'afflux des blessés. Le docteur Mouine Jamal vient de passer la nuit aux urgences pour aider ses collègues. Il nous décrit la situation terrible.
Des centaines et des centaines de gens qui arrivaient, tous imbibés de sang de partout, beaucoup de plaies graves, des arrêts cardio-respiratoires. Malheureusement, il y a beaucoup de lésions qui sont très graves. Il y aura beaucoup de gens qui vont garder des handicaps, qui vont certainement garder des séquelles, surtout avec les sutures qui n'étaient pas esthétiques du tout. On faisait des agrafes parce qu'on n'avait pas même le temps de suturer tellement les gens étaient nombreux. Des transfusions massives. Il y a beaucoup de gens qui arrivaient, qui ont perdu leur sang, donc qui arrivaient vraiment au dernier souffle. Des transfusions en masse. Et il y a eu aussi beaucoup de décès. On a encore beaucoup de gens qui sont vraiment en état catastrophique et qui risquent de mourir dans les heures qui suivent.
Ce mercredi a été décrété journée de deuil national. Le Premier ministre Hassan Diab promet que les responsables rendront des comptes. Il parle bien évidemment de cette cargaison de nitrate d'ammonium stockée depuis des années dans un entrepôt sans précaution. Le nitrate d'ammonium, c'est ce qui avait provoqué, souvenez-vous, la catastrophe AZF à Toulouse en 2001, Baptiste Durieux.
Absolument, comme à Beyrouth, un stock de nitrate d'ammonium explose, 31 morts, 2500 blessés, un cratère de 70 mètres de long et une détonation entendue à plus de 80 km de Toulouse. On parle ici d'un stock de 300 à 400 tonnes de nitrate d'ammonium. À Beyrouth, vous multipliez tout par 10, pas 300, mais près de 3000 tonnes de nitrate d'ammonium ont explosé. Et comme l'usine AZF, l'explosion a été précédée de crépitements. C'est ce qu'on entend sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Comme inadmissible qu'une cargaison de nitrate d'ammonium soit présente depuis 6 ans dans un entrepôt sans mesure de précaution, a déclaré le Premier ministre libanais. Et c'est là toute la dangerosité de la substance en grande quantité et sans les prérequis qui s'imposent. Le risque d'explosion est élevé parce que le nitrate d'ammonium est sans danger en tant que tel. Il se présente sous la forme d'une poudre blanche ou de granulés bien connus des agriculteurs qui l'utilisent pour la composition d'engrais. Pour le stocker, il faut l'isoler de liquides inflammables comme l'essence ou l'huile, tout comme les liquides corrosifs. Et si le nitrate d'ammonium est confronté à de fortes chaleurs, au-delà de 200 degrés, un incendie, des tuyaux surchauffés, une installation électrique défectueuse ou de la foudre, cela peut suffire à déclencher une telle explosion.
Explication de Baptiste Durieux pour RTL. Merci Baptiste. De nombreux pays ont proposé immédiatement leur aide. Cette nuit, Emmanuel Macron a annoncé via les réseaux sociaux que la France envoyait un détachement de la sécurité civile ainsi que plusieurs tonnes de matériel sanitaire. Des médecins urgentistes vont également rejoindre Beyrouth dans les heures qui viennent. Sachez qu'un numéro de téléphone est mis en place pour les ressortissants français. Il s'agit du 961 14 20 292.
Et on entendait cette situation absolument terrible, notamment dans les hôpitaux. On sera en direct avec nos invités à 7h15, en direct de Beyrouth sur RTL. 7h06 à présent, près de 2700 personnes évacuées hier soir dans les Bouches-du-Rhône à cause des incendies près de Marseille.
Il s'agit surtout de touristes qui se trouvaient dans des campings de Martigues, de Saucé-les-Pins, de Carie. Le feu est gigantesque. Plus de 900 hectares ont déjà été ravagés dans cette zone, sachant que le Mistral soufflait très fort hier, que plusieurs départs de feu ont été simultanés. Ce matin, l'incendie n'est toujours pas fixé. 1200 pompiers sont à pied d'œuvre. Le lieutenant Nélias en fait partie.
Voilà, 1010 hectares de brûlés. Le vent est tombé, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc ça va, là, dès que le jour va se lever, moi, je pense qu'on va avoir les avions aussi qui vont nous aider à travailler dans des endroits qui sont inaccessibles, très difficilement accessibles, avec les hélicoptères bombardiers d'eau.
C'est quoi la difficulté? C'est la pinède, les accès?
C'est le relief. Le relief qui est compliqué, il n'y a pas des pistes de partout, c'est-à-dire qu'on a même des véhicules, dont on a actuellement des tractos, des bulles qui vont nous permettre de faire des pistes pour pouvoir accéder donc justement à ces différentes lisières et pouvoir les traiter convenablement.
Là, il est contrôlé?
Il est contrôlé, c'est-à-dire qu'il est circonscrit, on en a fait le tour. Et maintenant, il va falloir le traiter, noyer, faire tous les mètres carrés, quoi. En l'occurrence, c'est 1000 et quelques hectares, il va falloir les traiter.
Le lieutenant Nélias des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône avec Hugo Hamelin pour RTL. À Cannes, un enfant de 18 mois est mort hier, renversé par le petit train touristique de la ville. Le petit garçon, originaire de la région parisienne, était en vacances avec ses parents. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame.
À Paris, le port du masque en extérieur devrait être rendu obligatoire dans les 2-3 jours à venir maintenant.
Anne Hidalgo a fait une demande en ce sens à la préfecture de police. La maire de la capitale souhaite que les piétons se déplacent protégés dans les rues commerçantes, dans les parcs, les jardins, mais aussi sur les quais de Seine. Et là, pour l'instant, les avis sont partagés, Juliette G.
Oui, Micheline, 68 ans, joue à la pétanque en bord de Seine et elle n'a aucune envie de porter le masque.
Quand on respecte leur maître, qu'on fait attention, qu'on ne fréquente pas n'importe qui, on peut rester dehors sans être confiné, sans porter de masque.
Marie, assise en terrasse, tend l'oreille, elle a eu le virus et selon elle, il est essentiel de se protéger à l'extérieur.
Comme disait Sartre, l'enfer c'est les autres et les autres ne font pas attention aux autres. Moi je remarque que les gens, ils ne portent pas du tout le masque, ils ne respectent pas la distanciation sociale. Malgré le confinement qui nous a été imposé pendant 3 mois, c'est comme si il n'y avait pas de coronavirus.
Les jeunes, eux, ont bien conscience de l'épidémie. Alexis et Clara, 19 ans.
Je pense que c'est une mesure vitale. Des fois, ça gêne un peu le masque, mais bon, faut faire avec.
Si le coronavirus reprend, de toute façon, on sera tous enfermés, donc autant porter un masque et que ce soit un petit peu moins agréable et pouvoir quand même profiter d'être dehors.
Gérard, glacier, sait que les clients seront moins tentés et donc moins nombreux, mais peu importe, dit-il, l'essentiel, c'est d'éviter un reconfinement.
Le reportage de Juliette G pour RTL. Et à partir de ce matin, c'est à Toulouse que le port du masque est obligatoire en extérieur dans les zones les plus fréquentées de la ville, sous peine d'une amende de 135 euros.
Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique, sera notre invité à 8h moins quart. Je rappelle qu'il nous explique aujourd'hui qu'on n'est pas loin d'une deuxième vague. Alors on lui demandera exactement pourquoi il affirme cela aujourd'hui.
Elles se considéraient comme les oubliées du confinement. Finalement, les aides à domicile vont-elles aussi recevoir une prime exceptionnelle? Emmanuel Macron l'a annoncé lors d'un déplacement à Toulon hier. 160 millions d'euros seront débloqués avant Noël.
Parmi les conséquences de l'épidémie de coronavirus, le coup porté aux artisans.
La chute de l'activité est historique selon une enquête de l'Union des entreprises de proximité. Les chiffres d'affaires ont plongé. Pour beaucoup, impossible de se relever. Fermeture inévitable. Arnaud Touche, vous avez rencontré une indépendante confrontée à cette situation.
Dans sa petite boutique d'une rue commerçante, Marianne solde tous ses derniers articles.
Je suis sur le départ, je ferme mon magasin.
Voilà 8 ans qu'elle vendait dans ce quartier des produits pour fêter des anniversaires et la crise liée au Covid-19 a été fatale.
C'était déjà très tendu. La perte de chiffre d'affaires total sur ces mois nous a mis dans un embarras plus que catastrophique.
Le tiroir caisse est resté désespérément vide, mais les charges, elles, étaient toujours là.
J'ai contacté mon propriétaire pour lui demander un geste commercial et j'ai reçu une réponse négative. Donc j'ai dû régler mes loyers du confinement avec zéro revenu.
Mais pour Marianne, l'aventure en tant qu'indépendante a été difficile ces derniers mois.
J'ai dû mettre de côté plein de choses pour m'impliquer parce que le commerce de proximité, c'est une astreinte quotidienne. On n'a pas ses week-ends, etc. On travaille beaucoup. On fait tout. On est caissier, on est étalagiste. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissements. À la fin, on a un goût amer.
Les aides de l'État n'auront pas suffi à maintenir son commerce de proximité, malgré une motivation qui n'a jamais faibli.
Le reportage à Paris d'Arnaud Touche pour RTL.
Et à 8h20, c'est Laurent Munro, le président de l'UDP, qui sera notre invité, l'Union des entreprises de proximité, qui a mené cette enquête. Les courses, Agnès, elles ont lieu aujourd'hui à Saint-Malo.
Exactement, et les pronostics sont signés Dominique Cordier. Il vous conseille de jouer le 5, le 13, le 9, le 7, le 12, le 4, le 8 et le 11. Dernière minute, le 9. Défi Pierre J.
Merci beaucoup Agnès Bonfillon, vous revenez à 8h pour un nouveau journal. À tout à l'heure.